En Géorgie, des enquêteurs sont soulagés de constater qu'il n'y avait personne à l'intérieur d'une maison qui a pris feu. Mais comme les experts judiciaires le savent, il ne faut jamais se fier à sa première impression. Dans la forêt, au nord du Tennessee, un chasseur découvre la voiture abandonnée d'une femme portée disparue. Les détectives s'apercevront vite que cet indice suscite davantage de questions qu'il ne fournit de réponses. Même si d'habitude les enquêteurs peuvent compter sur des témoignages de première main et sur des indices concrets pour commencer leur travail de recherche, il arrive parfois qu'ils ne disposent d'absolument rien pour progresser. C'est alors que la science devient leurs yeux et permet de reconstituer un crime. La criminalistique fournit les réponses que les témoins absents ne peuvent lui apporter. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Le Savannah est un cours d'eau à la fois tranquille et puissant. Le courant est rapide et les eaux profondes. Sous la surface de l'eau se trouve un monde rempli de mystères. Le 15 août 1998, le service des incendies de Richmond Augusta, en Géorgie, répondit à un appel d'urgence. Une maison sur Elizabeth Drive était la proie des flammes. Quand les pompiers arrivèrent sur les lieux, une fumée dense s'échappait de la maison. Ils tentèrent rapidement de maîtriser les flammes. En se frayant un chemin à travers la fumée, certains d'entre eux décelèrent une faible odeur d'essence. Ils se précipitèrent à l'intérieur pour porter secours à toute personne qui pourrait s'y trouver emprisonnée. Certains indices indiquaient que le feu avait débuté dans le vestibule. Bien que la chambre à coucher principale fût remplie d'une fumée dense, le feu ne semblait pas y avoir fait beaucoup de dommages. Les pompiers furent soulagés de constater qu'il n'y avait personne dans la maison. C'était maintenant au tour des investigateurs en incendie criminel de trouver la cause de ce sinistre. Des voisins déclarèrent à la police que le propriétaire et occupant des lieux s'appelait Al Hamilton. Personne ne l'avait vu depuis la veille et sa voiture n'était pas garée devant chez lui. Le bureau du shérif de Richmond County ouvrit alors l'enquête habituelle pour ce genre de cas. Pour l'enquêteur Dwayne Piper, plusieurs questions étaient sans réponse.
La première impression que j'ai eue en inspectant l'endroit, c'était qu'on y avait commis un crime. L'incendie ne semblait pas s'être déclaré à l'intérieur des murs, mais dans la pièce elle-même, ce qui laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'un incendie causé par une défectuosité électrique.
Plus tard, le même jour, une certaine Donna Edwards se présenta au bureau du shérif. Elle déclara qu'elle était la petite amie d'Al Hamilton. Elle s'était inquiétée en voyant qu'il n'était pas venu la retrouver comme prévu. Elle s'était rendue chez lui et avait eu très peur en apercevant la maison. Donna ne parut qu'à moitié rassurée quand on lui annonça qu'il n'y avait pas eu de victime dans cet incendie. Al n'était pas du genre à disparaître ainsi sans avertir personne. Divorcée depuis peu et vivant chez sa mère, Donna déclara à Piper que Hamilton et elle étaient très heureux ensemble. Ils avaient l'intention d'acheter un terrain pour y construire une maison. Donna devait aller voir des terrains avec Al ce matin-là, mais il ne l'avait pas rejointe comme prévu. Donna déclara au détective Piper qu'Al était le gérant d'un bar du quartier. Elle s'inquiétait de ses longues journées de travail. Elle ajouta qu'il ne quittait guère le bar avant 3 heures du matin. Elle était persuadée qu'il lui était arrivé quelque chose. Le détective Piper accepta de s'occuper de cette affaire, mais il expliqua à Donna qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Hamilton était un adulte et il pouvait bien avoir décidé de partir sans en aviser ses proches. 2 jours plus tard, on était toujours sans nouvelles de lui. Piper et sa collègue, le détective Joan Nutter, étaient impatients de lire le rapport de l'investigateur de l'incendie. Ce rapport indiquait que le feu avait débuté en 2 points différents. À l'aide d'un agent accélérateur, on avait mis le feu à la fois dans le vestibule et dans la chambre à coucher. Même si les enquêteurs soupçonnaient qu'on s'était servi d'essence comme agent accélérateur, les résultats des analyses ne furent pas concluants. Et Al Hamilton était toujours introuvable. Après la lecture du rapport, les enquêteurs furent convaincus qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. On transmit la description d'Hamilton et de sa voiture à toutes les unités de patrouille. Piper croyait que la scène du crime fournirait des réponses à ses interrogations. Il demanda l'aide du service de la sécurité publique de la Géorgie. L'enquêteur Piper et l'expert judiciaire Jerry Findlay du service de sécurité de l'État se rencontrèrent à la maison de Hamilton. Findlay remarqua alors une marque suspecte sur le pied du lit.
La marque pouvait avoir été causée par un bâton de baseball.
Findlay vit également ce qui semblait être du sang sur ce même pied de lit. D'après la marque laissée, ça semblait une tache de sang consécutive à un coup violent.
C'est le genre de trace qu'on trouve quand un objet taché de sang entre en friction avec une surface propre. On peut voir dans quel sens la tache a été faite.
En regardant le pied du lit, la tache allait de gauche à droite. Quelque chose d'autre capta le regard de l'expert.
On a trouvé des fragments de cheveux dans la tache de sang, ce qui laissait présumer que quelqu'un s'était blessé à la tête et que sa tête ensanglantée avait été en contact avec le pied du lit. L'emplacement de ces taches m'indiquait que quelqu'un avait frappé violemment la victime à ce même endroit.
Au cours de leur inspection de la chambre, les enquêteurs trouvèrent d'autres taches de sang.
J'ai pris un chiffon pour essuyer le mur et j'ai trouvé les autres taches sous la couche de suie.
Ainsi, comme Findlay le découvrit, la suie avait protégé les taches de sang. Cela indiquait que l'incendie avait été allumé après la bagarre. Quelqu'un avait tenté de dissimuler un acte violent. Pour reconstituer les événements, Findlay installa des ficelles à partir des éclaboussures de sang sur le mur jusqu'à l'endroit d'où le sang avait commencé à gicler. À l'aide d'un rayon laser, il put déterminer avec précision l'angle et la trajectoire de chacune des taches.
J'ai effectué mon analyse en commençant d'abord par déterminer dans quelle direction allaient les éclaboussures de sang. J'ai ensuite calculé l'angle selon lequel le sang avait giclé sur le mur et j'ai tiré des ficelles pour en déterminer l'origine. Ceci est le point de convergence. C'est vraisemblablement là que se trouvait la tête de la victime. Cette personne était à genoux ou assise au moment où on l'a frappé.
La marque sur le pied du lit laissait présumer que la victime avait été battue avec un objet contondant. En utilisant un bâton de baseball en laboratoire, Finlay produisit des éclaboussures dont le tracé était semblable à celui des éclaboussures de la chambre à coucher.
Ce genre de tache se produit quand l'instrument ensanglanté est projeté vers le haut à la suite d'un coup et propulse ainsi le sang vers le plafond. Le sang gicle de l'instrument, qu'il s'agisse d'une main, d'un bâton de baseball, d'une brique ou de quoi que ce soit d'autre. Le jet se dirige vers le haut, d'habitude jusqu'au plafond, quand le coup est porté directement sur la victime, comme c'était le cas dans cette affaire.
Les enquêteurs savaient maintenant que la maison d'Al Hamilton avait été le théâtre d'un acte violent. Il s'agissait dès lors de déterminer si Hamilton en était l'auteur ou la victime. On envoya le sang prélevé sur la scène du crime au laboratoire judiciaire du bureau d'enquête de la Géorgie. Al Hamilton avait subi des analyses sanguines peu de temps auparavant et son médecin put fournir un échantillon afin que son sang soit comparé à celui du pied du lit. Il était identique. On put en conclure qu'Al Hamilton avait été la victime d'un crime. L'expert Chris Perry analysa ensuite les photographies de la scène. La trajectoire et la quantité de sang projeté témoignaient d'un crime brutal.
À en juger par les indices qui apparaissaient sur les photos, il y avait eu là beaucoup d'agressivité, de colère et peut-être même de la haine. Les nombreux coups avaient visé la tête de la victime et sans doute son visage aussi. L'homme avait été tout simplement battu à mort.
Les policiers savaient maintenant qu'ils enquêtaient sur un homicide. Al Hamilton n'avait pas survécu à cette attaque violente. L'enquêteur Piper rencontra Donna Edwards de nouveau. Il lui demanda si, selon elle, quelqu'un aurait pu vouloir s'en prendre à Hamilton. Elle lui parla alors d'un incident survenu quelques mois plus tôt. Hamilton et elle rentraient du restaurant un soir quand un camion avait surgi de nulle part et foncé sur Hamilton. Il avait évité le véhicule de justesse en faisant un bond de côté. Le camion ressemblait à celui que conduisait Rodney Richardson, l'ex-mari de Donna. Donna déclara que Richardson n'acceptait pas leur divorce et qu'il était jaloux de sa relation avec Hamilton. Malgré tout, elle ne le croyait pas capable de tuer quelqu'un. De plus, ajouta-t-elle, il l'avait appelée vers 1h du matin chez sa mère la nuit du meurtre. Il lui avait dit alors qu'il se trouvait dans une cabine téléphonique à l'autre bout de la ville. Pour l'enquêteur Piper, Rodney Richardson avait un mobile pour tuer Al Hamilton, même si cela ne signifiait pas nécessairement qu'il était un meurtrier. Et sans cadavre, il serait difficile d'établir qu'on était en présence d'un homicide. À Augusta, en Géorgie, les enquêteurs avaient établi qu'Al Hamilton avait été brutalement assassiné. Le meurtrier avait incendié sa maison pour dissimuler son crime. Donna Edwards, la petite amie de Hamilton, craignait que son ex-mari, Rodney Richardson, ne soit mêlé à cette affaire. Mais on n'avait aucune preuve contre lui. On n'avait pas retrouvé le corps de Hamilton, ni sa voiture. Les policiers croyaient toutefois trouver des réponses au fond du Savannah. On effectua des fouilles minutieuses dans le cours d'eau, mais sans succès. L'enquêteur Dwayne Piper était très déçu par cette enquête.
Il y a eu plusieurs défis à relever. D'abord, il n'y avait pas de cadavre. Et puis, beaucoup d'indices avaient été brûlés ou détruits lorsqu'on avait éteint les flammes. On ne disposait d'aucun témoin. Personne ne pouvait donc nous raconter ce qui s'était produit.
Piper apprit alors que Richardson s'était arrêté chez la mère de Donna le matin suivant l'incendie, mais que Donna n'était pas là. La mère de Donna se souvenait que Richardson transportait avec lui deux sacs de toile. Il lui avait demandé la permission de laisser des choses dans la chambre de Donna. En sortant de la maison, il ne portait plus ses chaussures et il n'avait plus les sacs. La mère de Donna remit ses effets à la police. Piper envoya les chaussures au laboratoire pour analyse. Il appela ensuite Donna et lui demanda pourquoi elle n'avait jamais parlé des sacs de toile. Celle-ci déclara qu'elle avait peur de parler. Ces sacs, selon elle, appartenaient à Hamilton, mais elle refusait de croire que Richardson puisse être mêlé à cette affaire. L'enquêteur Piper, lui, était persuadé du contraire. Il espérait que l'analyse des chaussures du suspect permettrait de prouver sa présence sur la scène du crime. Au laboratoire, un expert les examina à la recherche de débris ou de cendres. Il tenta également d'y trouver des traces d'essence. Les semelles étaient propres, sans aucun résidu. Mais il trouva des traces d'essence sur les chaussures. Cela ne suffisait malheureusement pas. Richardson, qui travaillait dans le domaine de la construction, était quotidiennement en contact avec de l'essence. Les enquêteurs devaient trouver autre chose. Piper se rappela alors que Donna avait mentionné avoir reçu un appel de Richardson à 1h du matin dans la nuit de l'incendie. Il lui avait alors dit qu'il l'appelait d'une cabine téléphonique. Piper se demanda s'il avait dit la vérité. En se fiant à son instinct, il fit demander les relevés téléphoniques d'Al Hamilton. Cette nuit-là, quelqu'un avait appelé chez Donna de la maison de Hamilton à 1h du matin. Et cela ne pouvait pas être Hamilton puisqu'il avait travaillé jusqu'à 3h. Bien que cette preuve fût indirecte, elle pouvait laisser entendre que Rodney Richardson était chez Hamilton dans la nuit du meurtre. Les policiers devaient trouver des preuves formelles pour procéder à une arrestation. Ils demandèrent l'aide de Donna. Elle accepta de tenter d'obtenir des aveux enregistrés. Elle enregistra plusieurs conversations avec Rodney qui s'échelonnèrent sur quelques soirées. Elle lui dit qu'elle désirait savoir ce qui était arrivé à Hamilton pour pouvoir clore ce dossier et poursuivre sa vie. Richardson lui avoua avoir commis le crime. Il lui dit que ce n'était pas son intention, toutefois. Il voulait juste lui faire peur. Mais il avait perdu le contrôle. Il s'était tout à coup aperçu qu'il avait tué Hamilton. Richardson déclara ensuite qu'il s'était débarrassé du corps à un endroit où personne ne le trouverait jamais. Sans corps, se vanta-t-il, on ne pourrait pas l'inculper. Et si l'on tentait de l'arrêter, il ne se laisserait pas faire.
What do you want me to give you? What do you want me to tell you?
Les aveux permirent d'obtenir le mandat d'arrestation contre Rodney Richardson.
All right. I killed him. How about that? I didn't mean it to happen, but it did.
Vu les antécédents violents du suspect, les enquêteurs demandèrent de nouveau l'aide de Donna pour qu'on puisse l'arrêter sans qu'il se doute de quoi que ce soit. Pendant qu'elle était sortie avec lui, les policiers se cachèrent chez elle.
Rodney under arrest for murder of Al Hamilton.
What is this?
Le plan fonctionna. Richardson fut arrêté sans problème. Les enquêteurs croient que Rodney Richardson est entré par effraction dans la maison d'Al Hamilton pour le surprendre, mais qu'il a été aveuglé par la colère. Après avoir asséné plusieurs coups à Hamilton, il s'est aperçu qu'il l'avait tué. Richardson a mis le corps dans le véhicule de Hamilton, qu'il a ensuite fait disparaître. Afin de cacher son crime, il a allumé un incendie. On n'a jamais retrouvé le corps d'Al Hamilton, ni sa voiture. Mais Rodney Richardson a été jugé coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie.
La criminalistique a joué un rôle primordial dans cette affaire. Sans les analyses sanguines, les analyses génétiques et l'investigation sur l'incendie criminel, on n'aurait jamais pu porter ce cas devant les tribunaux ni procéder à une arrestation. Grâce à ces trois méthodes d'investigation, on a pu arrêter le meurtrier, même si on n'avait pas retrouvé le cadavre. À ce jour, on ne l'a d'ailleurs pas encore trouvé.
Rodney Richardson croyait à tort qu'en l'absence de cadavre, les enquêteurs ne pourraient jamais le faire inculper. Mais il se trompait. Au Tennessee, cette fois, dans une région rurale, les autorités devraient relier divers indices tachés de sang les uns aux autres pour retrouver une femme portée disparue. Stewart County, au Tennessee, est une petite localité rurale où les policiers connaissent tous les habitants par leur nom. En moyenne, on n'y compte qu'un seul crime violent par an. À la fin des années 90, un lundi soir, un chasseur remarqua une voiture partiellement cachée par des arbres. Elle semblait être sortie accidentellement de la route. En s'approchant, il vit qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Après avoir noté le numéro de la plaque d'immatriculation, il appela la police. C'est le bureau du shérif de Stewart County qui reçut l'appel.
Stewart County to 903. There's been a report of an abandoned vehicle.
La répartitrice dépêcha une voiture de patrouille sur les lieux. Elle introduisit ensuite le numéro de la plaque d'immatriculation dans sa base de données et découvrit que le véhicule était immatriculé au nom de June Atkins. Plus tôt ce même jour, on avait signalé la disparition d'une femme. Et maintenant, la police craignait que cette June Atkins n'erre dans la forêt, blessée et seule. Au Tennessee, la police de Stewart County avait dépêché des agents pour vérifier une voiture abandonnée qui avait quitté la route. Cette voiture était enregistrée au nom de June Atkins, une femme dont on avait signalé la disparition. Le véhicule était coincé contre un arbre. La portière côté passager était ouverte. Quelqu'un semblait être sorti par là. À l'intérieur, les policiers ne trouvèrent rien de suspect. Ils fouillèrent ensuite les environs en se demandant si June n'était pas sortie en rampant de l'auto et si elle ne gisait pas quelque part blessée. Mais on ne trouva rien. Le shérif David Hicks interrogea alors le mari de la disparue. Celui-ci déclara que June était partie rendre visite à sa mère dans une localité voisine, mais qu'elle ne s'y était jamais rendue. Atkins était inquiet de cette disparition et n'avait pas la moindre idée de l'endroit où June pouvait se trouver. Le shérif Hicks lui apprit alors qu'on avait trouvé la voiture de sa femme et qu'on croyait qu'elle avait été victime d'un accident. La voiture fut remorquée à la fourrière. Les enquêteurs espéraient y trouver des indices. Les experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales et de tout ce qui pourrait expliquer ce qui était arrivé à June. Mais seules s'y trouvaient les empreintes de la femme disparue. La police devait agir rapidement. Si June Atkins était blessée et errait en forêt, il fallait lui donner les premiers soins. Une équipe constituée de policiers du comté et de l'État, de même que plusieurs volontaires, se mirent à la recherche de June dans la forêt où l'on avait trouvé sa voiture.
Nous avons eu beaucoup d'aide des comtés voisins. Beaucoup de gens se sont portés volontaires quand ils ont appris que June Atkins avait disparu.
We're going to divide up in two groups. Half of you's going to go on the right side, half of you's going to go on the left side. Stay within 15, 20 foot of one another so you've got good sight of everybody as we go through the woods. Okay, let's go.
L'équipe de recherche se dispersa en éventail dans la forêt. De leur côté, des policiers à cheval s'attaquèrent au terrain plus accidenté. La patrouille des autoroutes du Tennessee avait fourni des hélicoptères dont les pilotes relayaient des informations au sol. Les recherches durèrent plusieurs heures. Puis, la police reçut un appel radio. On avait trouvé quelque chose près du pont de Paris Landing. Rick Stout, du bureau d'enquête du Tennessee, participait à ces recherches. Il apporta ce qu'il avait trouvé au shérif Hicks.
I got here on Highway 79, just east of the bridge, about a quarter of a mile off the side of the road.
Un groupe avait découvert un édredon en patchwork.
Well, I took it out. I don't want to lose anything in it. And pretty interesting.
I thought I had it right. Il semblait taché de sang. Près de l'édredon, on avait trouvé des gants de travail en coton pour homme. Les gants sentaient l'essence. L'enquête prit une nouvelle tournure quand les policiers comprirent qu'ils étaient peut-être à la recherche d'un cadavre. Des experts en scène de crime se joignirent aux recherches. Plus tard, au cours de l'après-midi, à plusieurs kilomètres de l'endroit où l'on avait découvert l'édredon, on trouva un porte-monnaie.
Search command, I have found a wallet and some identification.
Roger that. We'll get some more search people out your way.
Nous avons trouvé le contenu d'un sac à main. Nous savions que ces effets appartenaient à June Atkins parce que ses pièces d'identité se trouvaient dans le porte-monnaie. Les autres effets semblaient tous provenir d'un sac à main.
Les recherches se poursuivirent pendant plusieurs heures. On obtint alors d'autres nouvelles inquiétantes. On avait trouvé une grosse tache de sang dans l'herbe. On prit tout d'abord une photographie. Ensuite, les experts recueillirent tout ce qui pouvait servir, notamment l'herbe tachée et des échantillons de sang. Dissimulée dans l'herbe se trouvait une montre de femme. Pour Rick Stout, ces découvertes laissaient présumer qu'il était arrivé quelque chose de grave à June Atkins.
On avait trouvé une voiture abandonnée en forêt. Puis, on avait découvert les effets de cette femme, dont un édredon taché de sang. Comment expliquer cela? Quant aux effets personnels, qui aurait l'idée de jeter des choses aussi importantes qu'un permis de conduire et un porte-monnaie par la fenêtre de sa voiture? Cela nous indiquait qu'on était en présence d'un crime.
On avait découvert du sang, mais pas de traces de cadavre. Les enquêteurs devaient maintenant résoudre plusieurs questions. À ce stade de l'enquête, ils ne savaient absolument pas ce qui était arrivé à June Atkins.
On n'avait rien trouvé qui nous aurait indiqué où June se trouvait, ou du moins son corps. On avait espéré la trouver en vie, mais ça n'a pas été le cas.
Tous les éléments furent envoyés au laboratoire judiciaire du bureau d'enquête du Tennessee. La sérologiste Patty Ciotti analysa les taches.
J'ai ouvert l'édredon et je l'ai étendu. Il y avait une grosse tache dessus. La première chose que j'ai faite, c'est de faire une analyse pour m'assurer qu'il s'agissait bien de sang. C'était le cas. Ensuite, j'ai voulu savoir s'il s'agissait de sang humain. J'ai effectué une nouvelle analyse et confirmé qu'il s'agissait bien de sang humain.
Les gants étaient trop foncés pour qu'on puisse voir s'ils étaient tachés de sang. Ciotti les examina à l'aide d'une source de lumière spéciale. Elle remarqua alors qu'il y avait plusieurs petites taches ressemblant à du sang. Par des analyses subséquentes, elle constata toutefois que ce n'était pas le cas. Les résultats n'étaient pas concluants. Elle examina ensuite les échantillons d'herbe.
On m'avait rapporté de l'herbe qui provenait d'un autre endroit que l'édredon. Je l'ai examiné et j'y ai trouvé du sang.
Puis elle compara le sang trouvé sur les divers indices à un échantillon de sang de June Atkins fourni par son médecin. C'était identique. Les enquêteurs demandèrent à Ciotti de leur dire si, selon elle, June était toujours en vie, compte tenu du sang qu'elle avait perdu.
Sur l'édredon, il y avait une importante quantité de sang, mais cela pouvait provenir d'une blessure qui n'était pas mortelle. Malheureusement, le fait qu'on ait trouvé deux ou trois autres endroits où il y avait du sang m'indiquait que cette personne en avait perdu énormément. Cela signifiait que cette personne était vraisemblablement morte de ses blessures.
Ainsi donc, June Atkins était sans doute morte et l'on ignorait qui l'avait tuée. Les policiers devaient maintenant découvrir qui s'en était pris à cette femme et pourquoi. Watch was found. la police du Tennessee continuait son enquête sur le meurtre brutal de June Atkins. Même si on n'avait pas retrouvé le corps, l'importante quantité de sang qu'elle avait perdue laissait présumer qu'elle n'avait pas survécu à ses blessures. Le mari de June reconnut la montre de sa femme. Il la lui avait offerte à Noël. Le shérif X lui annonça la nouvelle du meurtre présumé de June et lui demanda qui, selon lui, aurait pu vouloir attenter à sa vie. Le mari se rappelait avoir trouvé un mot dans la voiture de June quelques semaines avant sa disparition. Le mot semblait avoir été écrit par un homme. Il demandait à June de le rencontrer à la rampe de mise à l'eau de bateau de Dyer's Creek. C'est tout ce qu'il savait. Des policiers interrogèrent les collègues de June dans l'espoir que l'un d'eux les aiderait à identifier le mystérieux auteur du mot. Voici le shérif David Hicks.
Des amis de June nous ont appris qu'elle fréquentait un certain Kenneth Pipkin. Les deux se rencontraient à la rampe de mise à l'eau de Dyer's Creek.
X retrouva la trace de Kenneth Pipkin au site d'exploitation de bois où celui-ci travaillait. Pipkin reconnut qu'il connaissait June. De fait, il fréquentait la sœur de son mari. Mais il nia l'avoir rencontrée à la rampe de mise à l'eau de Dyer's Creek. Le shérif Hicks avait des soupçons à son sujet.
On devait recueillir le plus d'informations possible avant de pouvoir l'interroger à nouveau.
Des policiers ratissirent le secteur tout autour de la rampe de mise à l'eau. La caissière d'une station-service connaissait bien June et Kenneth Pipkin. Elle n'avait pas une très bonne opinion de ce dernier. Elle déclara que c'était un coureur de jupons obsédé par la propreté de sa camionnette. De fait, il était si obsessif qu'il protégeait sa banquette avec un édredon. Récemment, la caissière avait aperçu Pipkin et June parler dehors. Elle avait ensuite vu June sortir du stationnement à sa suite en voiture. Les deux avaient pris la direction de Dyer's Creek. La caissière ajouta que Pipkin venait souvent pour attendre June. Sa version contredisait celle de Pipkin. Les policiers eurent alors un coup de chance. Un pêcheur les appela pour leur donner des informations.
Le jour de la disparition de June, il se trouvait à la rampe de mise à l'eau de Dyer's Creek. Il avait aperçu un homme et une femme dans un pick-up.
Les deux véhicules, selon sa description, correspondaient à ceux de Pipkin et de June. Les policiers convoquèrent Kenneth Pipkin à un interrogatoire. Ils lui montrèrent les photos de l'édredon taché de sang. Le suspect reconnut que l'édredon ressemblait à celui qui se trouvait dans son pick-up, mais il ajouta que quelqu'un le lui avait volé plus tôt au cours de l'année. Il jura ne pas être impliqué dans la disparition de June. Il ajouta qu'il ne l'avait même pas vu le jour de sa disparition. Les policiers savaient que Kenneth Pipkin mentait, mais ils devaient trouver des preuves solides pour démontrer que c'était un meurtrier. On fit émettre un mandat de perquisition de son véhicule et de sa maison. Les techniciens fouillèrent son pick-up. Ils trouvèrent de minuscules fibres de tissu sur le sol qu'ils recueillirent et envoyèrent au labo. Il y avait quelques paires de gants de coton dans la maison. Ces gants étaient de même taille et du même modèle que ceux trouvés sur la scène du crime. Tous ces indices furent acheminés au bureau d'enquête du Tennessee. L'expert judiciaire Russ Davis participa à cette affaire. Il brossa les dredons pour recueillir toutes les fibres qui se trouvaient dessus.
Notre but, c'était de voir si on pouvait établir un lien entre la victime et le suspect par le biais de cet édredon. C'est là que les fibres, les micro-indices, entraient en ligne de compte. Tous les tissus sont composés de fibres. Les vêtements, les moquettes, tous les tissus en viennent à perdre des fibres minuscules qui peuvent transiter sur un autre support.
Davis se mit ensuite à la recherche de fibres identiques.
On compare ensuite les échantillons obtenus aux échantillons connus. Dans ce cas-ci, c'était les fibres trouvées dans le véhicule. On les a examinées pour voir si elles se ressemblaient.
Les fibres de l'édredon taché de sang étaient identiques à celles recueillies dans le pick-up de Pipkin.
Selon le rapport, les analyses sérologiques avaient démontré qu'on avait trouvé le sang de la victime sur cet édredon. Les tests comparatifs avaient démontré que les fibres de cet édredon étaient les mêmes que celles trouvées dans le véhicule du suspect. Par conséquent, nous disposions d'un lien entre le suspect et la victime.
I think we have enough evidence to prove to a Stewart County jury that she's dead and Kenneth Pipkin killed her.
On montra ses preuves au procureur Dan Olso Brooks.
My experience tells me that we're going to have a hard time proving.
Olso Brooks redoutait de faire comparaître Pipkin devant les tribunaux.
Le gros problème dans cette affaire, c'était qu'on n'avait pas retrouvé le corps. Une fois en cour, les membres du jury pouvaient très bien se retrancher derrière le doute raisonnable à cause de ce fait.
Mais la police était déterminée à faire inculper Pipkin et fit analyser les indices de nouveau. Le procureur du district, quant à lui, n'était toujours pas convaincu d'obtenir gain de cause dans cette affaire.
Il est très difficile de convaincre le jury de la culpabilité d'un individu sur la base de preuves indirectes. On doit le convaincre sans que ne subsiste un doute raisonnable qu'il y a eu un homicide et ensuite prouver que cet homme est l'auteur de l'homicide.
Le shérif Hicks savait que le corps de June était là, quelque part, et pour lui, cette affaire n'était pas encore résolue. 2 ans plus tard, le 23 août 1993, un pêcheur fit une découverte macabre. La partie inférieure du torse d'une femme flottait à la surface de la rivière Tennessee. La famille de June reconnut ses vêtements. C'était bien elle. Kenneth Pipkin fut arrêté et accusé du meurtre. La police croit que June l'a menacé de révéler leur relation amoureuse. Pipkin l'a tué pour s'assurer qu'elle garderait le silence. Mais à l'aide de la criminalistique, on a enfin su ce qui était arrivé.
Même s'il s'agissait d'un meurtre commis dans une petite localité, il y a eu autant d'experts à venir témoigner que sur tous les autres cas auxquels j'ai participé. Un médecin légiste a pratiqué l'autopsie. De plus, des experts en fibres, des sérologistes de l'État du Tennessee sont venus témoigner. À titre de procureur, j'ai trouvé ce cas fascinant.
Kenneth Pipkin a été trouvé coupable de meurtre au second degré. Il purge à l'heure actuelle une peine de 20 ans de réclusion. Certains meurtriers feront tout pour qu'on ne puisse jamais retrouver leur victime. Ils se débarrassent du cadavre et ne laissent que d'infimes traces du crime. Auparavant, la justice pouvait difficilement condamner ces criminels. Mais aujourd'hui, la criminalistique fournit aux forces de l'ordre les armes nécessaires pour résoudre ces cas.